L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Bon matin à tous. 5h pile. Merci de vous joindre à moi dans l'amorce. En ce froid matin du 12 décembre 2019, on est reparti vraiment avec des températures hivernales. Hein. Couvrez-vous la tête, mettez-vous des gants, là, je vous le dis. c'est vraiment pas chaud ce matin. J'ai fait le zoom un petit peu en sortant. Mais bon, on s'y attend un petit peu à ce temps-ci de l'année quand même. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça va être encore du soleil. Donc encore une belle journée qui est prévue aujourd'hui à Québec avant de retourner à des précipitations. Vous remarquez qu'il y en est tombé un petit peu, tout dépendant des secteurs. Je suis pas sûr que c'est partout. Là. Secteur nord, il y a eu de la neige un petit peu parce que moi, il y en avait sur ma voiture, là, dans le secteur de Val-Bélair, tout ça. Il semble y en être tombé peut-être un centimètre. Là, je sais pas si un peu plus au sud, il y a eu des précipitations de neige. Mais secteur nord, c'est sûr qu'il tombe un petit peu de neige, mais c'est vraiment pas des grosses accumulations. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. Il n'y aura même pas de nuages. C'est vraiment du soleil. Le maximum qui est prévu, c'est moins 8 degrés. Demain, vendredi, ça se couvre. On parle de moins 3 comme température à atteindre avec faible neige intermittente toute la journée. Samedi, 6 degrés. C'est quelque chose, hein? On devrait encore atteindre des températures pas loin de record, voire carrément un record. Regardez, 14 décembre, là, le samedi, la température qui avait été la plus élevée, c'était en 2001, 4 degrés, puis on va être à 6. Donc encore une journée assez particulière qui risque de faire fondre le peu de neige qui tombe ces temps-ci. Dimanche, maximum de 2 degrés avec pluie ou neige. Alors encore une fois, c'est une journée assez douce qui nous attend, mais pour le moment, il fait moins 12 degrés à Québec et on le sent. Alors habillez-vous, c'est vraiment pas une journée très très chaude aujourd'hui. Dans les nouvelles aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans l'actualité et malheureusement, c'est pas de très très belles nouvelles. Encore un drame familial épouvantable qui s'est déroulé à Montréal. Et souvenez-vous, il y a de ça à peu près 7-8 semaines, dans le coin de Tétroville à Montréal, il y avait un autre cas où est-ce qu'un père avait tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Alors malheureusement, on a régulièrement ce type d'événement où est-ce qu'on trouve un homme en détresse psychologique qui a eu une altercation ou des conflits avec sa conjointe ou son ex-conjointe et qui commet l'irréparable. Et encore une fois, je vais vous raconter l'histoire, là, mais on se retrouve avec un homme qui est entré d'une façon ou d'une autre, soit dans le système de santé, soit dans le système judiciaire. Alors, d'abord, je vous résume un peu les faits. C'est hier, du côté de Pointe-aux-Trembles, que les policiers se sont présentés et qui ont trouvé la dépouille d'une femme de 42 ans et de ses deux enfants. La victime, la dame, s'appelle Daya Kelaf, la dame de 42 ans. Ses enfants étaient Axel et Adam, deux enfants âgés de 2 et 4 ans, deux enfants extrêmement jeunes. Et les circonstances sont vraiment particulières parce que les policiers qui se sont présentés venaient annoncer en fait le décès du père et du conjoint. Ils s'attendaient certainement pas à faire la macabre découverte. Je vais vous laisser entendre Manuel Couture de la police de Montréal qui explique un petit peu comment les policiers sont entrés dans la résidence.
Vers 8 heures ce matin, des policiers du secteur sont présentés à la résidence pour aller annoncer le décès d'un proche. Quand ils sont arrivés à la résidence, ils trouvaient vraiment très particulier qu'il n'y ait pas de réponse. Donc, ils sont entrés à l'intérieur. Et lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur, ont découvert trois corps, celui d'une dame et de deux très jeunes enfants.
On n'a pas encore les circonstances exactes, le fil des événements. Encore une fois, Manuel Couture qui explique un peu où en est l'enquête en ce moment.
Ça va faire partie de l'enquête, évidemment. C'est une des questions que les enquêteurs se posent. À quel moment la dame et les enfants sont décédés vis-à-vis à quel moment l'homme est décédé? Évidemment, une fois qu'on va avoir réponse à ça, ça va orienter l'enquête de façon beaucoup plus efficace.
C'est un couple originaire d'Algérie, puis il semble que jusqu'en 2016, tout se passait relativement bien dans ce couple-là, sauf qu'en 2016, l'homme aurait subi une blessure de travail qui l'aurait forcé à arrêter de travailler et là, il aurait vraiment changé. Il serait allé se faire opérer en Algérie. Quelques semaines plus tard, serait revenu. Et là, apparemment, que son attitude aurait changé du tout au tout. Sa femme aurait eu l'impression qu'il avait développé des troubles mentaux, ce qui semble s'être confirmé par la suite. Il a consulté en psychiatrie, mais apparemment, en tout cas, d'après les informations dans les différents médias, là, autant dans la presse que dans le Journal de Québec ce matin, semble pas que l'individu en question ait eu des pensées suicidaires à ce moment-là. Sauf qu'en 2018, il aurait commis des voies de fait à l'endroit de sa femme. Il l'aurait frappé. Il aurait récidivé par la suite, ce qui fait en sorte que la dame aurait porté plainte à la police. Il a été accusé de voies de fait, libéré sous condition, mais avec interdit de contact. Et la semaine dernière, donc pas plus tard que la semaine dernière, le monsieur était devant le palais de justice, devant le juge au palais de justice de Montréal pour répondre de ces accusations-là et pour son procès. Et finalement, il a été libéré des charges de voies de fait, mais en échange d'un interdit de contact d'un an avec Mme Daya Khelaf. Alors, il ne devait plus être en contact avec elle. Sauf qu'une semaine plus tard, il a commis l'irréparable. Et comment on a été capable de comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est que mardi matin, l'individu de 46 ans, Nabil Issad, s'est présenté à l'hôpital de Joliette. Mais il n'est pas passé par le tri comme on fait quand on va à l'urgence. Il serait monté directement au sixième étage avant de s'enlever la vie. Les gens comprenaient pas trop non plus pourquoi il se présentait dans un hôpital qui était éloigné de chez lui. Là, c'est à Joliette, c'est pas à côté de Pointe-aux-Trembles. On est à plus de 60 kilomètres. Alors, vous avez compris, suite aux propos de Manuel Couture par la suite, que les policiers ont tenté d'aller expliquer un peu qu'est-ce qui se passait, d'aller expliquer à la famille qu'est-ce qui s'était passé, annoncer la mauvaise nouvelle, et finalement se sont rendus compte qu'il y avait eu un geste épouvantable qui avait été commis. Alors, on est au premier stade de l'enquête, mais tout ça a malheureusement tous les traits d'un scénario qu'on rencontre malheureusement beaucoup trop fréquemment dans l'actualité. Encore une triste histoire. Et on est encore allé parler, c'est un peu les mêmes constats à chaque fois, mais on est allé parler à des psychiatres qui essaient d'expliquer des gestes de la sorte et qui en viennent toujours à la même conclusion. C'est que vous avez beau avoir quelqu'un qui consulte en psychiatrie, quelqu'un qui met même dans le système de justice en lien avec des accusations, donc on a en quelque sorte sous contrôle. Si la personne est décidée puis la personne essaie de cacher, c'est extrêmement difficile de savoir à quel moment ou de quelle façon la personne va exploser. Sauf que c'est triste de se rendre compte que ça arrive aussi souvent, là. Je vous rappelle qu'il y a 7 semaines à Tétroville, il y avait eu un cas similaire qui s'était produit. Alors, c'est infiniment triste ce qui s'est passé, mais encore une fois, une dame qui perd la vie, une mère de famille, ainsi que ses deux enfants, ses deux très jeunes enfants de 2 et 4 ans. On passe de ce drame familial à tout ce qui est autour de la protection des données, de la protection de l'identité sur le web. On en parle très souvent, ça aussi, de problèmes en lien avec ça. On va le faire en deux volets ce matin. D'abord, c'est une nouvelle qu'on apprenait en début de semaine à la Une Journal de Québec. Souvenez-vous, là, c'est vedette québécoise qui aurait été sous le coup d'un pirate informatique qui aurait accédé, entre autres, à leur iCloud, donc aux fichiers en lien avec leur consommation Internet, également à leur message texte via leur cellulaire. Et on se demandait comment ça s'est passé. On savait qu'il y avait un suspect qui avait été perquisitionné, un individu de Québec. Et là, il y a eu arrestation cette fois-ci. Et on connaît l'identité de la personne et on a un peu plus de détails sur quel est cet individu-là, qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire ça. Il s'agit de Pascal Degagny. Il a 45 ans et il a été arrêté par le service de police d'agglomération de Longueuil hier. Ça fait plus d'un an et demi en passant que l'enquête est en cours. On sait que Véronique Cloutier avait porté plainte suite à un vol de données. Et il fait face à 7 accusations. Vol d'identité, fraude à l'identité, méfait à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur ainsi qu'utilisation frauduleuse d'un mot de passe. C'est un individu sans antécédent judiciaire. Et c'est quelqu'un donc qui travaillait comme consultant en informatique, il avait sa propre compagnie, mais a déjà travaillé chez Desjardins. Ça, c'est le Journal de Québec qui le sort ce matin. Et c'est une drôle de coïncidence compte tenu de tout ce qu'on connaît de Desjardins présentement. Mais il semble que c'est quelqu'un qui était consultant chez Desjardins il y a quelques années et qui était considéré comme un génie informatique par ses collègues. Un de ses collègues qui dit qu'il était tellement bon, il avait tellement modifié le système que quand il est parti, il a tout fallu repartir à zéro. C'était quelqu'un donc qui était excellent tout ce qui a trait à l'informatique. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait eu les méthodes, qu'il y ait eu la capacité d'entrer dans le système de ces vedettes-là, qui inclut Véronique Cloutier, comme je vous dis, également des joueurs du Canadien. On sait que Brendan Gallagher serait de près ou de loin lié à cette affaire-là. Et lui, apparemment que selon son collègue, ça pourrait pratiquement être un passe-temps de pirater et d'essayer d'obtenir des données personnelles parce que justement, ce serait quelqu'un d'extrêmement intelligent et extrêmement calé en informatique. On n'a pas beaucoup plus de détails sur les circonstances, non plus sur l'identité. Vous comprenez que la police va pas les dévoiler, mais je vous fais quand même écouter Patrick Barrière du service de police de l'agglomération de Longueuil qui explique un peu les circonstances autour de l'arrestation de l'individu.
Ce qui a été volé, en fait, ne sera pas mentionné aujourd'hui, compte tenu que ça va faire partie des éléments qui vont être divulgués lors du procès. L'identité des victimes sera jamais dévoilée par le service de police de l'agglomération de Longueuil, justement pour préserver leur identité.
Et il aurait commencé en 2013, en passant, et pas juste au Québec. Il aurait même fait des victimes aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que l'enquête a été longue, probablement. C'est qu'on a dû sûrement remonter dans le passé pour se rendre compte à quel point ce gars-là faisait ça depuis longtemps. Je vous ai dit qu'on parlerait un peu de problèmes informatiques, de problèmes liés à la protection de l'identité en deux volets. On revient un petit peu brièvement sur Desjardins. Je vous en ai parlé hier, là, mais le fait que maintenant, tout le monde, mais vraiment tout le monde est touché par la fuite de données, y compris les gens qui sont clients aux assurances ou encore les gens qui ont des cartes de crédit chez Desjardins, non seulement les gens qui ont des comptes chèques ou des comptes d'épargne. Eh bien, il y a eu des réactions du côté de la coalition Avenir Québec. Hier, il y a des ministres qui sont allés réagir à propos de ça. Et bon, on n'est pas tendre à l'endroit de Desjardins. Souvenez-vous que le président de Desjardins était passé devant l'Assemblée nationale il y a de ça quelques semaines. Il s'était un petit peu dédouané en disant qu'il n'était pas le seul, qu'il y avait également le gouvernement qui devait être plus prudent puis mettre davantage de mesures pour protéger les gens quant à leur identité. Et en passant, le gouvernement est en train de plancher là-dessus. Là, on a appris qu'on essaierait d'instaurer une identité numérique au Québec en enlevant un peu les cartes, en permettant aux gens d'avoir tout ça sur leur téléphone cellulaire de façon électronique dans la prochaine année. C'est ce qu'on veut faire. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas très convaincu de la manière dont c'est géré présentement, de la manière dont Guy Cormier gère les choses chez Desjardins et la fuite de données qui est évidemment très inquiétante pour les clients. Alors d'abord, je vais entendre le ministre délégué à la transformation numérique, Éric Kerr, qui n'a pas des mots très, très tendres envers le mouvement Desjardins.
Est-ce qu'ils ont eu les meilleures pratiques? Je pense que vous répondez à votre propre question. Quand on se fait voler 8 millions de renseignements personnels sur vos clients, bien, c'est parce qu'il y avait une brèche de sécurité, c'est clair. Donc, maintenant, il faut tirer des leçons de ça collectivement.
On a eu droit au même son de cloche un peu de la part du ministre des Finances, Éric Girard.
C'est indéniable que Desjardins doit évoluer au niveau de sa pratique de gestion des risques, cybersécurité, risques informatiques, TI, gouvernance du conseil d'administration. On s'en va vers là, l'évolution. L'incident y est arrivé. L'incident n'aurait pas dû arriver.
Mais là, une fois que qu'il y a 8,2 millions de clients qui sont touchés, quelle est la suite? Est-ce qu'on va avoir des changements drastiques au sein de Desjardins? Est-ce que Guy Cormier va rester en poste? Il y a plusieurs questions qui sont encore non répondues en lien avec cette affaire-là. D'ici là, sachez que tout le monde chez Desjardins est sous la protection de crédit, là, l'espèce de surveillance de crédit de la part d'Equifax. Alors, n'oubliez pas qu'on est passé de 2, quelques millions à 4 millions à 8 millions en l'espace de quelques mois. Ben là, ça peut pas vraiment monter parce que tout le monde est touché. Donc, ça, c'est la seule bonne nouvelle. On a pas mal le pire scénario qui est déjà démontrer. Je termine en vous parlant de l'entente avec les médecins spécialistes. Souvenez-vous que le gouvernement Legault voulait retrancher 1 milliard $ au départ dans les poches des médecins spécialistes, dans leur rémunération, alors qu'ils étaient extrêmement bien payés, voire les mieux payés au Canada. Mais finalement, c'est pas ça qu'on va aller chercher. D'abord, il y a une entente qui est survenue. Là, l'entente de principe, ça fait un certain temps qu'on sait qu'elle était survenue. Mais là, on a certains détails avec des chiffres et des considérations financières jusqu'en 2023. Et finalement, ce sera pas 1 milliard $ qu'on va retrancher, loin de là, mais juste un peu plus que la moitié, c'est-à-dire 560 millions $. Donc, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer des actes médicaux. Donc, c'est même pas les honoraires en tant que tels des médecins. Donc, ce qu'on leur paye pour chacun des actes, c'est qu'on va éliminer certains actes médicaux et on va parvenir comme ça, éventuellement, à récupérer une somme qui devrait monter à 1,6 milliard $. Sauf que pour ce qui est des salaires, de la rémunération, vous avez compris que c'est 560 millions $. D'où ça sort, ça? Ben, je vous l'ai dit, des actes non pertinents, des actes posés présentement qui ne seront plus chargeables par la part des médecins spécialistes. On dit qu'on va diminuer également la croissance des coûts du système. On va abolir des primes de chef de service et d'autres mesures également qui devraient totaliser 560 millions $. Diane Franca, qui est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, dit qu'elle évidemment n'est pas très heureuse de perdre de l'argent dans ses poches, dans la poche de ses membres, mais est quand même satisfaite de l'entente.
Évidemment, personne n'est jamais content de retrancher de l'argent d'une entente, mais je pense qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait toujours. Notre objectif n'a jamais été d'être les médecins spécialistes les mieux payés du Canada. On voulait être dans la moyenne, on est dans la moyenne.
Reste que du côté de la CAQ, c'est en quelque sorte une promesse brisée. Je vous l'ai dit, ils voulaient retrancher 1 milliard $, chercher 1 milliard $ dans la rémunération des médecins spécialistes, et c'est loin d'être le cas. Par contre, Christian Dubé, hier, le président du Conseil du Trésor, se félicitait de l'entente et disait notamment que ça aurait été impossible d'arriver à quelque chose comme ça si le ton n'avait pas changé entre les deux parties.
On a fait toute cette évolution-là dans la dernière année dans un esprit de partenariat. Et je pense que le climat conflictuel qui prévalait avant n'était pas gagnant pour personne, ni pour le gouvernement, ni pour les spécialistes.
Alors, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller chercher un peu d'argent et que l'argent qui va être repris va être réinjecté en santé. Donc, c'est de l'argent qui va rester dans le système, simplement pas dans les poches des médecins spécialistes. 5h15, on prend une courte pause au retour. Un petit tour dans le monde du sport avec Dan.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
On s'en va dans le bar qui est en face. 3 personnes à l'intérieur du bar. Vous allez entendre le client aussi qui avait bien du fun en arrière.
Out of control! Out of control!
Ça va être correct, hein? Non. Une certaine clientèle, 3 personnes.
Donc, on 5 à 7 un peu. Out of control!
C'est débridé. Il y avait une ambiance, on a le goût d'être là.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30. FM 93. Ça me parle.
Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com.
Du 21 novembre au 31 décembre, découvrez le tout premier marché de Noël du Grand Marché de Québec. Dans une ambiance des fêtes d'antan, vivez les traditions de l'époque à travers des ateliers culinaires, la confection de décorations et de cadeaux, des contes et même le Père Noël. Bonifiez votre table des fêtes avec les judicieux conseils et les savoureux produits de nos marchands. Des idées cadeaux jusqu'au sapin. Dénichez tout pour vos réceptions. Le Grand Marché de Québec, là où notre saveur prend place.
Oui, décembre, c'est le mois des parties et je vous dis que ça va chauffer chez Beaupart Hyundai. Avec un taux de 0% en location ou financement, plus 500 $ en crédit pour pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. 90 jours sans paiement sur tous les modèles. Et jusqu'au 2 janvier, vous recevez en plus 500 $ en bonus de fin d'année sur les véhicules en stock sélectionnés. Procurez-vous l'Elantra 2020 à 40 $ par semaine en location 60 mois avec léger comptant.
Toujours et seulement chez Beaupart Hyundai.
Rue Clémenceau, 666-2000.
Hey, salut, ici André de Pizza Royale.
Miam!
Hum, qu'est-ce que c'est bon?
Noum!
Voilà, tout a été dit. Et pour vous remercier de nous faire confiance depuis 40 ans, à l'achat d'une bière, je vous offre gratuitement des croustilles chaudes avec notre sauce royale.
Pizza Royale!
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de la neige et une bordée de plaisir, de découvertes et de souvenirs. En hiver, venez profiter de l'immensité de notre région avec une panoplie d'activités comme la motoneige, la raquette, le ski, les hébergements insolites et la pêche blanche, vous vivrez des expériences uniques. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est juste à côté. Alors venez nous visiter. Réservez votre séjour au saguenaylacsaintjean.ca.
Il était une fois, dans un monde pas si lointain, un petit naïf qui vivait dans une bulle de bonheur. Mais ce n'est pas tout le monde qui partageait sa joie. Notre petit ami croyait qu'il était normal de garder ses vieux médicaments pour mal de dos dans l'armoire de la salle de bain, à la portée des enfants, plutôt que de les rapporter à la pharmacie comme il se doit. C'est pas comme si une fée des pilules va le faire pour toi, Pierre.
La fée des pilules n'existe pas. Protégez vos ados et rapportez vos médicaments à la pharmacie. Un message de Jeunesse sans drogue Canada.
Marie-Mé, une nouvelle ère, un nouveau spectacle. À la salle Albert Rousseau de Québec. Marie-Mé, une artiste incomparable, un spectacle impressionnant. Avec ses plus grands succès revisités et ses nouvelles chansons. Les 6 et 7 mars, 24 et 25 avril, 28, 29 et 30 mai. Billets sur marimé.com.
Je vous dis ça de même, mais le 1er février prochain, je vais jouer une partie sur la glace du Centre Bell. Ça vous tente de venir avec moi? Grâce au FM 93, à Cause Light et à Boston Pizza, vous pourriez faire partie du trip de fou. Inscrivez-vous sur fm93.com. Vous pourriez être invité dans un des Boston Pizza pour le tirage final. Si vous gagnez, on prend l'autobus pour aller voir le match du 1er février et ensuite, on joue une partie amicale sur la glace du Centre Bell. De plus, vous pourriez gagner un kit de partie de Noël Coors Light. Une collaboration de Coors Light, Boston Pizza et du FM 93.
L'Amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
On est jeudi le 12 décembre 2019. Il est 5h19. Bienvenue dans l'Amorce. Merci d'être là avec moi très tôt le matin. On a des prévisions météo assez bonnes pour la journée. C'est du soleil avec un maximum de moins 8. Mais dans les prochains jours, on va continuer à jouer au yo-yo avec le mercure. Là, on va remonter au-dessus de zéro dans les prochains jours. Donc, moins 8 aujourd'hui avec du soleil. Demain, vendredi, moins 3, faible neige intermittente avec des nuages toute la journée. Samedi, 6 degrés avec de la pluie. Donc, encore une fois, une journée un peu bizarre comme on a eu cette semaine. Là. 6 degrés, le maximum prévu avec de la pluie. Dimanche, 2 degrés. On va rester au-dessus de zéro avec de la pluie ou de la neige. Puis, pour vous donner une idée, là, à long terme, là, on va redescendre à moins 10. Donc, quand je parle de yo-yo, c'est vraiment le cas à la météo présentement. Et en ce moment, il fait froid à Québec, il fait moins 12. Salut Dan.
Salut Jean-Simon.
Le Canadien qui ne cesse de gagner depuis qu'il s'est débarrassé de Keith Kincaid.
Ah, et voilà.
Moi, je pense que j'ai compris la clé de l'énigme. Ils ont trouvé l'élément problématique. Peut-être dans le vestiaire, comme Piqué Souban, il dérangeait avec la musique.
Ouais, il l'a envoyé au Rocket de Laval, et puis depuis ce temps-là, ça va bien.
Ça va bien, hein?
Ouais. Je me demandais pourquoi le Canadien s'était remis à gagner, mais tu as trouvé la réponse.
Et voilà.
Ouais. Quatrième victoire en 5 matchs pour le Canadien. Une victoire à l'arraché un peu contre les Sénateurs parce que le Canadien menait 2-0 après 2, mais les Sénateurs sont revenus pour faire 2-2 en troisième. On a eu recours à la prolongation et c'est Ben Chiarot qui a fait la différence sur un superbe but, une belle passe de Max Domi. Et lui a complété ça comme s'il était un grand défenseur du hockey, mais finalement, c'est un défenseur qui donne de précieux services aux Canadiens actuellement parce qu'il joue 30 minutes par match, puis c'était pas ça le plan de match au départ, mais la défensive du Canadien est tellement ordinaire, puis Marc Bergevin donne pas beaucoup de renforts à son entraîneur-chef, donc Claude Julien est obligé de surutiliser Ben Chiarot, mais hier, ça a été payant. Samedi, c'est les Red Wings de Détroit qui s'amènent au Centre Bell. Ils ont perdu leurs 12 derniers matchs.
Donc, un petit peu pire que la séquence canadienne.
C'est ça. Tout laisse croire que le Canadien va remporter le match de samedi, bien qu'on peut pas dire ça avant de présenter les événements. Dans le monde du sport, faut attendre de faire le match, mais ça regarde bien. On va dire ça comme ça. On serait rendu à 5 en 6 matchs.
Et là, ça commence à
sortir les séries. Là, on pourra dire dimanche que le Canadien est parti pour la gloire. Là, on peut dire ça va bien. Mais après la victoire de samedi, là, on va vraiment être parti.
On part en peur.
Ouais, on part en peur.
J'ai niaisé avec Kate Kincaid au début de l'intervention.
Oui, Dan, j'avais compris.
Mais de façon plus sérieuse, comment tu peux expliquer qu'une équipe qui perd 8 matchs de suite réussisse à retrouver une bonne séquence comme ça puis à bien jouer?
T'es mûr pour remplacer dans l'avant-match parce que c'est exactement la question mot pour mot que j'ai posée à Simon Gagné hier soir.
OK.
Comment le Canadien peut perdre 8 matchs puis venir quand gagner après ça? Mais là, on était à 3-4 quand j'ai posé la question. On est rendu à 4-5. Il m'a dit, ça s'explique pas. T'as des séquences comme ça. Ça prend juste une petite étincelle dans un match qui te remet à gagner. Il dit, tout est une question de confiance. Tu peux pas expliquer une série de défaites. Tu peux pas trop expliquer non plus pourquoi tu viens quand gagner à un moment donné 4-5 ou tu repars sur l'autre versant de la montagne. Mais c'est ça la réalité. Mais sérieusement, c'est une très bonne nouvelle. C'est bien plus fun d'avoir le Canadien comme dans une course avec plein d'équipes jusqu'à la fin de la saison. Ça va être le fun. Puis c'est la première victoire en carrière pour le jeune Kaden Primeau, gardien de 20 ans quand même, un choix de 7e round. Oui. Je suis toujours critique à l'endroit de Trevor Timmons, mais ça, c'est une belle découverte pour le Canadien. Donc, c'est lui qui était le gardien partant hier pour Montréal. Puis, une petite chose avant d'aller à la pause, c'est avant que tu me flushes, on va dire ça comme ça, c'est qu'il y a eu un 5e congédiement d'entraîneur dans la Ligue nationale hier. C'est Peter DeBoer, l'entraîneur des Sharks. Et dans ce cas-ci, ça n'a aucun lien avec un comportement inapproprié. C'est vraiment le rendement des Sharks sur la patinoire. Ça a nausé 12e sur 15 équipes dans l'Ouest. Et hier soir, en début de soirée, le DG Doug Wilson a dit à son coach, t'es congédié.
Merci beaucoup, Dan.
À tantôt.
Un tour au palais de justice de Québec, alors qu'il y avait la conclusion d'un procès qui a fait pas mal jaser, celui d'un ex-avocat qui s'appelle Antoine Gagnon. On vous en a parlé notamment dans Bouchard en parle, de cet ex-avocat qui avait fait livrer chez lui une poupée sexuelle aux allures d'enfant. Souvenez-vous un peu là, des circonstances autour de ça. Le gars en question avait fait plusieurs recherches sur le web en lien avec ça, avait fait livrer un colis, il avait eu une opération policière pour intercepter le colis, pour ensuite aller le livrer, et on l'avait arrêté pour possession et importation de pornographie juvénile. Et c'était son procès dans les dernières semaines. On a eu droit aux plaidoiries des deux parties hier, la couronne et la défense. Alors, pour la couronne, aucun doute que Antoine Gagnon, lui, avait magasiné ça et voulait une poupée sexuelle aux allures d'enfant. Alors, pour la couronne, il n'y a pas de doute qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Alors que la défense, elle, argue qu'au contraire, les recherches ne démontrent pas qu'Antoine Gagnon souhaitait avoir un objet illégal en sa possession. Là, j'entrerai pas dans les détails des mots-clés, sauf que en tant que tel, effectivement, les mots-clés peuvent prêter interprétation. Est-ce que c'est réellement une poupée mineure ou ayant l'air d'un enfant qui est recherché? C'est ça que le juge va devoir trancher. Il y a quand même eu 3600 recherches dans les moteurs de recherche sur le web de la part d'Antoine Gagnon pour l'achat d'une poupée sexuelle de petite taille. Et là, ça va vraiment être la question qu'ils vont devoir se poser. La défense a dit, ben écoutez, lui, il a donné toutes ses informations personnelles pour accéder à ça, pour avoir le colis. Ça ressemble à un client qui agit de bonne foi sans savoir exactement que ce qu'il fait est illégal, alors que la couronne dit, ben non, au contraire, il n'y a aucun doute que ce qu'on retrouve dans son historique Internet, l'allure de la poupée, d'ailleurs, les journalistes avaient décrit, là, c'était assez troublant, mais ils disaient, écoutez, ça fait aucun doute que les journalistes qui étaient présents en salle, là, ça fait aucun doute que la poupée, c'était pas une poupée adulte, et puis la personne voulait quelque chose, une représentation d'un enfant de moins de 18 ans. Alors, on saura finalement fin mars si Antoine Gagnon est déclaré coupable ou non d'importation et de possession de pornographie juvénile. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une cause assez particulière sur laquelle le juge Asselin va devoir se pencher dans les prochains mois. C'est le juge Jean Asselin de la Cour du Québec qui va trancher cette cause-là. Il est 5h25. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Pour la dernière de la semaine, demain matin, soyez au rendez-vous dès 5h. Et dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle. Ciao.
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.